Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le titre du message aujourd'hui, c'est « Ne pas subir les circonstances ». Et c'est une chose qui est importante pour chacun d'entre nous, de réaliser certaines choses que Dieu fait et aussi certaines choses qui se passent et où on se pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors on peut se poser des questions sur la prédestination. Est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites à l'avance? On peut se poser des questions sur le hasard, qu'est-ce que c'est, sur la chance. On peut se poser des questions sur est-ce qu'il est possible, est-ce qu'un homme est capable de prendre sa destinée en main? Est-ce qu'il peut conduire sa vie ou est-ce que c'est dirigé par une autre façon ou est-ce que quelque chose a été écrit d'avance? Alors je crois qu'il y a beaucoup de confusion. Déjà, il y a beaucoup de confusion chez les gens qui ne connaissent pas Dieu parce que d'où auront-ils une source d'information? Quelle peut être leur source d'information? Nous avons toutes sortes de sources d'information. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « moi je crois que, moi je pense que » et des gens des fois qui n'ont aucune autorité pour enseigner, se mettent à étaler toutes leurs croyances. Mais nous avons une révélation de la part de Dieu lui-même, celui qui a tout créé. Et des fois, nous voyons le Saint-Esprit comment il inspire semaine après semaine les choses que nous entendons et que nous disons ici. Et nous avons entendu la semaine dernière un verset sur lequel je reviens, c'est Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Vous pouvez vérifier. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu ne fait rien. Rien, ça veut dire rien. Voilà, c'est pas compliqué dans la Bible. Quand c'est écrit, c'est comme ça. Rien, ça veut dire rien. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Donc quand il est dit « Dieu ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes », c'est important pour nous de réaliser comment est-ce qu'il agit. Et là, on se rend compte que dans les traditions humaines, nous sommes très loin de la réalité souvent. Et quand on dit « les voies du Seigneur sont mystérieuses, impénétrables », rien n'est plus loin de la réalité que ça. Elles ne sont pas impénétrables. Et même on peut les connaître et on peut même les découvrir. D'ailleurs, dans Romains, il écrit même « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. » Manifeste, ça veut dire « ça se voit ». Dieu, le leur ayant fait connaître, il parle des hommes, il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu. » Ça semble complètement contradictoire, disons une perfection invisible se voit à l'œil nu. Mais c'est parce que tout à coup, vous entrez dans une dimension, vous dites, mais oui, c'est bien vrai. Tout ce qui existe, tout ce qui tourne, et je me rappelle de ce sketch de cet évangéliste, et il disait, voilà, pour faire une horloge, il faut un horloger. Pour faire une voiture, il faut un mécanicien. Et puis il dit, mais le soleil et la lune et les planètes et la terre et toute cette grande horloge qui tourne, tout s'est fait tout seul. Il n'y a eu personne qui a pris une initiative pour le créer. Et il dit, mais ça semble impensable pour nous, impensable. Et donc toutes les perfections invisibles de Dieu, même les perfections invisibles, on ne parle même pas seulement de la création, se voit comme à l'œil nu, il est dit, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc on peut commencer à réaliser la présence de Dieu dans ce monde. Alors il n'est pas lointain, il n'est pas si mystérieux, il veut parler les choses, et il le dit à qui? Ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, ça ne veut pas dire, là encore, on est obligé maintenant, on est dans un monde où on est obligé de définir tous les mots, parce qu'il y a des mots qui ne veulent plus rien dire. Il y a quelques années maintenant, la mode a un peu passé, c'était le mot d'enfer. Quand c'était d'enfer, ça voulait dire c'est bien, c'est super, c'est génial. Alors quand nous réalisons le mot enfer, que c'est des lieux inférieurs, là où le diable agit et le royaume démoniaque, nous on trouve que ce n'est pas tellement génial. Mais ainsi, on a beaucoup de mots qui ont été complètement dénaturés. On est obligé de tout réexpliquer. Quand vous parlez aux gens de prophètes, ils pensent peut-être à Nostradamus ou des choses comme ça. Donc, prophète, c'est pas forcément quelqu'un qui prédit l'avenir, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Étymologie, ça veut dire pro, pour, théos, Dieu. Il parle pour Dieu, il parle de la part de Dieu. Dieu dit à ses serviteurs, les prophètes, il leur dit quelque chose, il leur montre par vision et eux le communiquent. Et ça, c'est quelque chose qui a été établi dans Amos 3.7. Et Dieu ne fait rien sans passer par ce procédé. Ses serviteurs, les prophètes, ne sont pas une petite équipe réduite d'élite. C'est tous ceux qui veulent se mettre à la disposition de Dieu. Ainsi, prophète, il n'a pas besoin d'avoir une longue barbe blanche, par exemple. Il n'a pas besoin d'être vieux ou d'être je ne sais quoi. Un prophète, c'est simplement quelqu'un qui est capable d'entendre. On peut dire que, en fait, tout le peuple de Dieu, dans le sens église, sens large, les chrétiens, sont appelés à être prophètes. Quand dans l'Ancien Testament, à un moment, il y a eu l'Esprit de Dieu qui a saisi des gens qui étaient qui n'étaient même pas venus se rassembler avec les autres, les anciens. C'est dans Nombre vers le chapitre 11, je crois, vous pourrez vérifier. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Esprit de Dieu a saisi des personnes et n'est même pas venu. Et Josué a eu une réaction, il a dit, mais empêche-les de prophétiser, Seigneur, à Moïse. Et Moïse a eu cette réaction, il a dit, mais puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Il n'était pas quelqu'un qui était jaloux de son autorité en disant, moi je suis le seul vrai prophète de Dieu et tous les autres, ce n'est pas des bons, il faut pas, sinon mon autorité sera diluée. Non, il a eu cette vision, puisse tout le peuple de Dieu entendre de Dieu et parler de la part de Dieu. Alors, pourquoi dit-il ces choses? Pourquoi le dit-il? Premièrement, Dieu les dit pour qu'elles arrivent. Pour qu'elle puisse arriver, il faut qu'elle soit prononcée. Genèse 1, chaque fois que Dieu a créé quelque chose, Dieu dit et cela fut. Dieu dit et cela fut. C'est tout le temps, c'est comme ça. C'est par la parole qu'il a créé toute chose. Pour que ces choses arrivent, les prophéties, par excellence, elles amènent des choses à l'existence. C'est leur fonction principale, amener des choses nouvelles. De choses qui n'étaient pas. Parce que même les gens qui ne croiraient pas à l'existence de Dieu, il faut bien un moment se dire, mais d'où viennent les choses? Pour nous, la réponse est simple. Nous avons Dieu qui est, qui amène des choses à l'existence. Il les pense, il les dit, et les choses arrivent. Ensuite, elles peuvent être dites pour qu'elles puissent être changées. Nous avons une illustration de ça dans la Bible, dans concernant Ézéchias, le roi Ézéchias, et dans Ésaïe 38, vous pouvez trouver ça. À un moment, le prophète dit au roi, il lui dit, voilà, Dieu a dit, c'est terminé avec toi. Tu es malade, et cette maladie va te conduire à la mort, tu vas mourir. Donc, je t'avertis, comme ça tu peux mettre de l'ordre dans ta maison et tout arranger, parce que tu vas mourir. Alors, si on suit le raisonnement de certains, si vous avez une parole de Dieu comme ça, ça veut dire que la chose a été arrêtée de la part de Dieu. On ne peut plus rien y changer. Et comme c'est Dieu qui l'a dit, cette chose va se réaliser. Vous me suivez dans ce que je veux expliquer? Mais en fait, Dieu, voyant l'issue de cette maladie, n'était que en train de dire ce qui allait se passer. Il ne dit pas, c'est ma volonté parfaite, j'ai décidé que ce roi allait mourir de cette maladie et c'est terminé. Il était simplement en train d'annoncer par le prophète, voilà l'issue de la maladie est fatale. Le roi a eu un mouvement vers Dieu, il a pleuré, il a prié et alors Dieu s'est laissé fléchir et a dit, j'ai entendu ta prière, je rajoute 15 ans à ta vie. Et donc c'est intéressant de voir que certaines personnes pensent que si Dieu a désigné une chose, c'est immuable, on ne peut plus y toucher, et ça veut dire que c'est comme une fatalité, ça va s'abattre sur vous ou ça va se réaliser et on ne peut rien y changer. Non, en réalité, on découvre que nous avons un Dieu, avec un mot moderne, on pourrait dire qu'il est interactif. Ça se passe entre lui et nous constamment, comme par exemple... vous pouvez vous marier avec quelqu'un, vous pouvez faire un contrat de mariage, Mais vous n'allez pas vivre tout le temps en disant, attends, que dit le contrat de mariage pour aujourd'hui? Ah, toi, tu dois sortir les poubelles, toi, tu dois me faire à manger, etc. Vous ne vivez pas constamment avec le contrat de mariage, quel qu'il soit. Vous vivez d'une façon interactive et vous vivez les choses ensemble et puis ça évolue et ça bouge parce que nous sommes vivants. Dieu n'est pas rigide ni statique. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se font, il y a des choses qu'il veut faire et qu'il ne peut pas faire. Allez, il est obligé de changer d'avis. Il veut utiliser quelqu'un, la personne dit non, je ne veux pas y aller. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas le frapper sur la tête pour l'obliger. Alors il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre. Désolé pour la personne, elle aurait pu être un instrument entre les mains de Dieu. Mais c'est comme ça. Il y a un plan B et puis un plan C. On n'est pas toujours dans le meilleur plan de Dieu. Donc des fois, des choses sont dites pour qu'elles arrivent, d'autres fois pour qu'elles puissent être changées. D'autres fois pour qu'elles puissent être évitées. Rappelez-vous, Jonas, le livre de Jonas, quel était le message de Jonas? Il n'était pas dit « repentez-vous ». Sinon vous allez périr. Le message de Jonas était clair. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il n'a rien dit d'autre. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Et le peuple de Ninive, il est dit que c'était une ville qui avait vraiment mis le comble au péché, il y avait une malédiction sur cette ville, s'est à nouveau humilié. Il a dit même le roi, il ne s'est plus habillé d'habits royaux, il a pris un sac, il a mis de la cendre sur lui, pour montrer qu'il regrettait, qu'il voulait supplier Dieu de changer, et dit, la ville a été épargnée. Donc des fois, des choses sont dites pour qu'elles soient évitées. Ou alors, des fois, des choses ne peuvent pas changer ou être évitées, mais dans ce qui est en train de se réaliser, certains peuvent être sauvés au milieu d'une circonstance. Exemple, Noé et toute sa famille. Noé, il nous est dit, c'était un prédicateur de la justice. Noé n'a pas dit, je vais construire en secret un bateau et moi et ma famille, on pourra être sauvés et pour les autres, tant pis. Un prédicateur de la justice, ça veut dire que pendant toute sa vie et pendant tout le temps qu'il a construit son bateau, rappelez-vous, très loin de toute voie navigable, on a bien dû rigoler de lui. Pendant 120 ans, il a construit son arche. Et les gens se disaient, mais Noé, il est complètement fou. Mais il continuait d'être un prédicateur de la justice. Il parlait de la justice de Dieu. Quelques-uns auraient pu être touchés et auraient pu dire, nous aussi, on veut être sauvés de cette situation. Mais ça ne s'est pas fait. Le déluge a eu lieu. On reviendra peut-être sur le déluge et pourquoi il a eu lieu. Le déluge a eu lieu. Dieu n'a pas dit, bon, je ne vais pas envoyer le déluge parce que il y a quand même Noé. Mais Noé a été sauvé dans la circonstance. Donc, voyez globalement, les choses qui sont annoncées, les choses dans lesquelles nous vivons, elles peuvent soit se réaliser, soit être changées, soit être évitées, soit on peut être sauvé au travers de ces choses. On n'a pas besoin de se dire, c'est comme ça maintenant, on n'y peut rien, il faut traverser tout ça. Alors, on peut penser par rapport aux circonstances des choses vraiment spectaculaires, intempéries, tornades, tsunamis, séismes, etc. Ça, c'est les choses qui impressionnent. Et quand on voit ces choses, on peut dire, mais c'est Dieu qui a créé cette situation. Parce que on a chanté aussi des chants qui peuvent être troublants. Dieu est souverain, il tient le monde dans sa main, et quelqu'un pourrait dire, ben dis donc, et on dirait qu'il a perdu le contrôle alors. Mais je ne vais pas refaire le message de la souveraineté de Dieu, il faudra écouter le message numéro 1. Mais rappelez-vous que dans Genèse 1, quand Dieu agit sur la planète Terre, il nous dit que la Terre était informe et vide. Et littéralement en hébreu, on dit c'était le tohu-bohu. On pourrait traduire par le chaos. C'était le chaos avant que Dieu ne fasse la création que nous appelons la création adamique, où il a mis de l'ordre sur terre, où il a fait ce beau jardin d'Éden, où il a placé l'homme et la femme et tous les animaux, c'était le chaos. Parce qu'il y avait déjà d'autres créatures qui existaient avant Adam et Ève. Entre autres, Lucifer, qui était auprès de Dieu, qui est tombé avec tous les anges de la rébellion qui l'ont suivi, et il y a eu une espèce le chaos qui s'est manifesté, la planète Terre est devenue la prison spirituelle du diable et de ses démons. Et nous avons été placés ici pour manifester la justice de Dieu. Il nous a mis en zone occupée. D'abord par l'autorité qu'il a donnée à Adam et Ève de gérer le jardin et ensuite dominer sur les animaux, tout cela. Et puis maintenant, on peut dire par Jésus-Christ, qui est le nouvel Adam, de manifester le royaume de Dieu. Alors Dieu a-t-il autorité sur les circonstances ? Ça, c'est une question très importante pour nous. Parce que nous ne voulons pas retomber dans le fatalisme. Dieu contrôle tout, Inch'Allah, on ne peut rien y changer. Le bouddhisme, l'islam, d'autres religions insistent beaucoup là-dessus. Il y a une espèce de fatalisme, on ne peut rien changer. Pour nous, la révélation de Jésus-Christ par l'Évangile nous apporte une lumière totalement différente. Où nous voyons certainement un Dieu tout-puissant et qui règne, mais qui règne avec l'homme et qui règne dans son propre domaine. Dieu ne règne pas sur quelqu'un qui ne veut pas qu'il règne sur lui. Sinon, Dieu arrêterait immédiatement tout crime, toute forme de mal sur terre, toutes les guerres s'arrêteraient en un instant s'il voulait dominer les hommes comme des pions, comme des pantins. Mais il veut la collaboration. Mais Osée 4.6 dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Les choses qui se passent sur terre, la plupart du temps, les choses qui arrivent même aux chrétiens, ce n'est pas parce que vous êtes un bon chrétien, si la chose existe, que vous êtes épargné, et parce que vous êtes un mauvais chrétien ou une méchante personne, vous êtes puni. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand vous comprenez certains principes qui régissent les choses sur la terre, que vous êtes dans une position où vous pouvez des fois surmonter une circonstance ou la subir. Dans l'Ancien Testament, Job n'était pas plus bête que nous, mais il y avait certaines choses qu'il n'avait pas compris parce qu'il n'avait pas de révélation. Quand Job, il y a tous ces malheurs qui sont abattus sur lui, lui il ne voyait pas ce qui se passait dans le monde invisible. Et il ne savait pas. Il croyait que c'était juste une relation entre lui et Dieu. Dans le sens, si je suis intègre, si je suis bien la loi de Dieu, tout ira bien pour moi. Si je fais quelque chose de travers, alors je suis puni. Et comme il croyait qu'il avait tout bien fait, il s'est dit, c'est pas normal, qu'est-ce qui m'arrive ? Parce qu'il ignorait, ou du moins il ne l'a pas compris comme nous le comprenons, qu'il y a aussi un diable qui agit. Dans les assurances, dans les pays anglo-saxons, on appelle les catastrophes naturelles « an act of God », ça veut dire « une action de Dieu ». Quand il y a une tempête ou autre chose, le contrat d'assurance parle des « act of God ». Et quand nous réalisons que ça ne peut pas être une action directe de Dieu, parce qu'il n'est pas le destructeur, il est au contraire le créateur. Ça ne tient pas debout. Mais nous avons maintenant, par le Nouveau Testament, par la Nouvelle Alliance en Jésus, une révélation supplémentaire. Nous comprenons que ce n'est pas juste entre nous et Dieu, et juste une question de est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, est-ce que j'ai obéi ou pas. C'est un peu différent de tout ça. C'est plus complexe dans le sens qu'il y a plusieurs intervenants, il y a aussi le diable et ses mauvais esprits. Il y a un diable, il existe, c'est une réalité. Quand vous voyez des fois, même dans les nouvelles, on a quelqu'un qui dit « j'ai pas pu me contrôler, tout à coup cette chose m'a saisi ». Alors les psychologues ou je sais pas qui donnent des explications, c'est des pulsions, c'est ceci, c'est cela. Mais nous voyons aussi qu'il y a eu le cas de certaines personnes où il n'y a pas d'autre explication que quelqu'un qui les a poussés. Un acte de folie suite à une possession, une ouverture aux choses qui sont de la sorcellerie ou d'autres choses comme ça. Le diable est une réalité. Et il n'est pas l'homme de main de Dieu. Il n'est pas là pour faire le sale boulot quand Dieu ne veut pas se salir les mains. Dieu est bon, et alors, de temps en temps, il a besoin de quelqu'un pour faire le sale boulot, quand il veut juger quelqu'un ou le punir, alors il dit au diable, vas-y, fais-le. Non, ce n'est pas la réalité. Il n'est pas non plus là pour collaborer avec Dieu pour notre sanctification, Pour, si Dieu veut nous rendre meilleurs, alors il veut nous envoyer une épreuve, et comme il est tellement bon, il ne va pas le faire lui-même, il dit au diable, vas-y, fais-lui quelque chose, et puis comme ça, il va se ressaisir, il va prier, et puis il va devenir un meilleur chrétien. Mais vous savez que beaucoup de gens enseignent ces choses, ils les croient, mais mon peuple est détruit par manque de connaissances, parce qu'on s'accroche à ces fables, on ne comprend rien à ce qui se passe, et en même temps, on prête à Dieu des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est pour ça que nous avons besoin de réaliser qui fait quoi sur terre, qui a l'autorité, quelle est l'autorité déléguée, quelle est notre responsabilité. Quand est-ce que c'est le diable et quand c'est pas lui? Parce qu'on ne peut pas lui mettre non plus tout sur le dos et fuir nos responsabilités. Donc c'est important de savoir quand agir. Le diable profite de notre ignorance ou de nos faiblesses, de notre incrédulité. Il est comme ça, il est à l'affût. La Bible nous dit, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est à l'affût comme une bête de proie en disant, je vais pouvoir peut-être l'avoir, je cherche une faiblesse, je cherche un moment, et donc c'est à nous de ne pas lui donner de l'accès, en sachant comment ça se passe, et en sachant comment réagir. L'homme s'est fait berner, et continue d'être roulé par le même adversaire, et en faisant ça, ou en étant cette personne qui se fait rouler, il croit pendant ce temps qu'il est le maître de sa destinée. C'est quand même tragique de réaliser ça. Combien de gens pensent diriger leur propre vie, et ils prennent des mauvaises décisions parce que souvent ils ont de fausses informations. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes informations ne peut pas prendre des bonnes décisions. C'est pour ça qu'il y a de la puissance dans les médias. C'est pour ça que les gens qui doivent prendre des décisions, que ce soit au niveau gouvernement ou dirigeants d'entreprise, il leur faut de l'information continuellement. Des statistiques, des pourcentages, des perspectives de croissance, de développement, etc. Il leur faut des tonnes d'informations. Et pendant ce temps, le chrétien qui est amené à régner avec Jésus-Christ dans la vie, qui doit gouverner la planète Terre sous l'autorité du Seigneur, il ne reçoit pas d'informations. Il se contente des choses véhiculées depuis longtemps, qu'on se répète de bouche à oreille, et qui sont des fois dénuées de fondement. Donc on a besoin que ces choses changent, que le peuple de Dieu se réveille, et qu'on ait de vraies informations, basées sur la parole de Dieu. Et ces choses vont nous permettre de vivre cet esprit de sagesse, de révélation, de comprendre quel est notre appel. Une des réalités qui est très importante par rapport au fait de voir qui a l'autorité sur les circonstances, c'est que nous récoltons ce que nous semons. Ça, c'est une loi immuable. Genèse 8, 22 dit, cette loi des semences, des semailles, il est dit, et des récoltes, elle ne s'arrêtera jamais. Et elle est vraie dans le naturel et elle est vraie dans le spirituel. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Si vous semez de la dispute, vous allez récolter des disputes. Si vous semez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. C'est comme ça que ça se passe. Galates 6 reprend aussi. Vous récoltez ce que vous avez semé. Dans Genèse, dans Galates 6, justement, je l'ai cité, mais je voulais juste qu'on puisse y aller. Non, pardon, c'est Genèse que je voulais prendre. Oui. Des fois, on a besoin de revenir jusqu'à Genèse pour comprendre certaines choses qui nous arrivent. Dans Genèse 6, oui, c'est juste avant le déluge. Au verset 5, il nous est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ça, c'est un verset qui est vraiment, quand on réalise, toutes les pensées, vous avez lu avec moi, toutes les pensées, chaque jour, se tournent vers le mal. Vous imaginez ça? Là, vous n'avez pas besoin de chercher l'enfer plus loin. Vous avez l'enfer sur la terre. Des fois, on parle du ciel sur la terre quand on a un moment où ça se passe bien, où on est heureux. Mais là, vous avez tout le genre humain corrompu, tourné vers le mal. Et il nous est dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Il y a des conséquences. On a dit on récolte ce qu'on sème, il y a des conséquences. Les mauvaises pensées constamment orientées vers le mal ont produit quelque chose sur terre. On produit une situation telle que c'était devenu, on peut dire littéralement, invivable. Et j'ai entendu une explication qui me semble assez intéressante. Comme on a dit que nous ne pourrons pas imaginer que Dieu ait créé à la base une planète instable, il y a eu une action, et là on a des actions, une action qui a fait que l'harmonie telle que Dieu l'avait créée a été bouleversée. Et quand il nous est dit que dans le déluge s'est produit de la façon suivante, les eaux inférieures ont rejoint les eaux supérieures. Et j'avais entendu une explication très intéressante qui parlait du firmament, qui était, il y avait une, comme une espèce de globe autour de la planète Terre, qui entourait la Terre et qui s'était fait en partie d'eau, et il y avait en même temps des sources inférieures, c'est-à-dire il y avait des réserves d'eau sur Terre, il y a des creux, des cavernes et tout, et comme tout a bougé énormément par les séismes, on ne sait plus comment elle était. Mais moi je ne crois pas que Dieu ait créé à la base une terre instable où il y ait constamment des tremblements de terre, des volcans, des choses comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui a mis toutes ces choses en mouvement. La Bible explique des choses très clairement, très simplement, et ça prend du sens. Tout à coup on réalise, mais oui. Et quelqu'un dit, toutes nos pensées ont une influence. Nos pensées ont une influence, nos pensées émettent des ondes, vous le saviez ça? Vous savez, des fois, il y a certaines choses que vous pouvez lire dans la science-fiction ne sont pas tellement éloignées de la réalité. Quand on parle de télépathes qui peuvent lire les pensées ou des choses comme ça, mais Dieu peut lire nos pensées. Ce n'est pas de la science-fiction. Il peut savoir ce qui se passe. Il y a des choses qui pourraient s'expliquer. Mais qu'est-ce qui est important pour nous? C'est que nous récoltons ce que nous semons. L'homme a produit lui-même le désastre sur la planète dans laquelle nous sommes. Et non seulement on peut se dire, oh, maintenant on récolte tout ce que ces gens du temps de Noé ont fait. Mais qu'est-ce que font les gens de notre génération? On parle de la planète que nous allons léguer à nos enfants, mais on ne fait rien qui soit vraiment déterminant pour que les choses s'arrangent. On est en train de colmater quelques petites brèches, mais ce n'est rien en rapport avec ce qu'il faudrait réellement faire. Je ne suis pas en train de faire un discours sur l'écologisme, je suis juste en train de dire que c'est la réalité. On ne fait rien pour que ça s'arrête. On fonce vers le mur et on continue. Et le principe qui est important pour nous, c'est de réaliser que dans Jacques, au chapitre 3, il nous est dit « un petit feu » peut embraser une grande forêt. Maintenant, si quelqu'un, des fois on parle dans nos problèmes d'été, hein, voilà, il y a encore tant d'hectares qui ont brûlé ici et là. Si quelqu'un jette un mégot ou si quelqu'un gratte une allumette, ça n'enflamme pas la forêt instantanément, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça fait? Ça allume quelques brindilles. Ils vont peut-être se propager à quelques broussailles, qui vont se propager alors à un petit arbrisseau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les petites choses que nous faisons, on n'a pas l'impression des fois des conséquences que ça va avoir. Mais si vous les mettez bout à bout, et si vous les rassemblez de tout ce que tout le monde fait, alors vous comprenez que ça peut avoir des conséquences qu'on n'aurait jamais imaginé et qui sont résumés ici dans la Bible par un petit feu qui embrase une grande forêt. Dieu a autorité sur les circonstances, il y a des choses qu'il peut arrêter, on peut le voir dans un instant, mais en même temps il nous faut réaliser quelle est notre part. Je vais vous lire un petit extrait d'un livre que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais que vous puissiez tous lire parce que ça vous intéresse. Comment éviter la tragédie et vivre une vie meilleure? C'est de Charles Capps, et il dit « Tenir sa langue en bride ». Prenons quelques paroles de sagesse de l'épître de Jacques. Il dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Ça veut dire qu'on peut échouer des fois. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. C'est vraiment étonnant hein, de voir comment on peut diriger un cheval. Parce qu'un cheval, c'est quand même de la force. Si vous le comparez à un homme, on se dit, pourquoi ces bêtes se laissent faire comme ça? Si elles réalisaient, elles pourraient peut-être des fois faire ce qu'elles veulent, mais c'est ainsi. Ces deux versets parlent du corps. Il est écrit que pour diriger un cheval, il suffit d'exercer un peu de pression sur sa langue. Voici une autre illustration. Même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Là, c'est la même chose. En fait, le gouvernail semble tout petit par rapport à la taille du bateau. D'accord ? Ici, la langue est comparée au gouvernail d'un navire dont le capitaine se sert pour diriger le navire là où il veut. Si vous n'aimez pas la direction dans laquelle vont certaines choses dans votre vie, prenez le contrôle du gouvernail de votre langue. Imaginons un grand paquebot entrant dans le port, je sais pas, de Marseille par exemple. Tandis qu'il s'approche lentement du quai, le capitaine hurle « On va tout droit sur le quai, on va le frapper de plein fouet ». Quelqu'un pourrait lui crier « Idiot, tu n'as qu'à tourner le gouvernail ». C'est exactement ce qui arrive chez de nombreux chrétiens. Lorsqu'un problème leur arrive, ils se mettent à en parler. Ce faisant, ils positionnent le gouvernail et ouvrent leur cœur au problème. On ne change pas le gouvernail, on reste dans la même direction. On dit ce qui va arriver, on va s'écraser. Mais ça ne change rien. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de changer la direction. Le cœur, c'est ce qui contrôle le gouvernail. La langue est le gouvernail. C'est elle qui fera tourner le corps tout entier, soit vers le bien, soit vers le mal. Le facteur déterminant, c'est ce que vous aurez déposé dans votre cœur par vos paroles. Et donc, il illustre aussi le petit feu et la grande forêt. Et ça, on l'a déjà vu ensemble. Donc, c'est important qu'on puisse réaliser cela. Là, il donne une illustration. Il dit, par rapport au manque de contrôle de la langue, vous avez peut-être déjà entendu des gens autour de vous dire des choses insensées. Et ici, il raconte... Dans une réunion, j'ai entendu un homme dire en plaisantant « Avec ma chance, je vais probablement me faire écraser par un train de marchandises en rentrant chez moi. » Il ne s'est pas fait écraser ce jour-là. Mais il se peut qu'il continue à faire cette plaisanterie pendant des années sans que rien lui arrive, mais un matin, on lira dans le journal qu'il a été écrasé par le train de 9h23 et tout le monde dira « Pourquoi Dieu a-t-il permis cet accident ? C'était un bon chrétien !» Peut-être vous me dites non, c'est pas possible, mais moi je dis que si. Moi je dis ça illustre exactement ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Si quelqu'un dit constamment la même chose, il commence à le croire, il va attirer ces choses. C'est pas de la superstition, c'est une réalité. Je me rappelle d'un prédicateur qui avait dit qu'il avait lu dans un article de journal qu'un homme a été frappé par la foudre. Il était parti faire son jogging et il a été frappé par la foudre. Et donc il était interpellé par ça, il dit, mais comment ça s'est passé? Et il était sûr en lui-même qu'il y avait là quelque chose, une leçon, quelque chose d'important. Et plus tard, il a entendu de la part de gens qui connaissaient cet homme, que chaque fois qu'il partait faire du jogging, il a dit, je reviens dans une heure, à moins que la foudre ne me frappe. C'est une réalité, c'est un fait divers qui a été marqué dans le journal, et c'était ce qu'il disait, constamment. Et ce jour-là, la foudre l'a effectivement frappé. Alors quelqu'un peut dire, c'est un hasard. Ben, si vous croyez au hasard, vous allez avoir votre propre opinion, mais moi je vois qu'il y a là des choses qui illustrent toutes les lois spirituelles que nous découvrons dans la parole de Dieu. Et c'est pas pour effrayer quelqu'un que je dis, c'est au contraire pour que nous puissions utiliser ces lois spirituelles pour notre bien et pour bénir autour de nous, au lieu de nous attirer des malheurs. Nous avons aussi un fameux juron en alsacien où nous appelons la malédiction de Dieu sur nous pendant des années. Après, on se demande pourquoi certains cœurs sont endurcis et qu'ils ne comprennent pas que Dieu veut les bénir. Parce qu'ils ont toujours dit « Dieu maudit-moi ». Un jeune prédicateur avait entendu un message sur l'autorité et il était enthousiaste. Et il travaillait chez un garagiste à l'époque, avec ses collègues. Il a dit, j'ai découvert que j'ai l'autorité. L'autorité du croyant, le sujet dont nous parlons actuellement. J'ai l'autorité. Et ça se passait en Oklahoma. Alors si vous avez entendu parler, souvent en Oklahoma, il y a des tornades, il y a des vents qui sont assez fameux. Il dit, maintenant j'ai découvert que j'ai l'autorité. Au nom de Jésus, il a dit, et maintenant il n'y aura plus de tornades. Et donc il s'est un peu vanté devant ses collègues. Et il paraît que c'était une des nuits les pires que l'Oklahoma ait connues en matière de tornades. Alors le lendemain, il fallait qu'il revienne voir ses collègues. Et puis bon, il a dit, alors ? Et puis il a dit, bon, ok, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais on y reviendra. En réalité, nous avons besoin de réaliser que si Dieu a autorité, que si nous pouvons exercer l'autorité, nous devons voir dans quel domaine et dans quel champ cette autorité peut s'appliquer. Ce n'est pas n'importe où, n'importe comment et n'importe quoi qui se passe. Vous savez, quand le monde entier a été choqué parce que les deux tours se sont écroulées, il y a aussi des raisons pour lesquelles elles ont pu s'écrouler. Et les raisons n'étaient pas seulement des terroristes qui avaient préparé cet attentat. Les raisons, c'est que ça fait je ne sais combien d'années qu'il y a tellement de films et de romans qui explique aux gens tout ce qui pourrait arriver, de catastrophes. Et les gens sont remplis de ces choses. Ils disent, j'ai peur que des terroristes frappent ici et là. On a peur de prendre l'avion, on a peur de ceci, on a peur de cela. On parle sans cesse des peurs et de tout ce que le diable pourrait faire, jusqu'au moment où il peut effectivement le faire. Si on utilisait notre langue pour dire, nous connaissons les desseins du diable, mais nous refusons que ces choses aient lieu. On pourrait prier pour que Dieu intervienne, pour qu'il protège les gens. Et comme je l'ai dit, ces tours sont tombées, et dans ces tours, il y avait des méchants et des bons. Ce jour-là, il n'y a pas eu que des méchantes personnes, nous avons bien mérité que... non, c'est pas comme ça. Et on peut sourire, mais c'est vrai que c'est tragique pour ces gens-là. Mais la réalité, c'est qu'il y avait des méchants et il y avait des bons dans ces tours. Mais la réalité, c'est que certaines personnes n'étaient pas dans la tour non plus. Certains étaient avertis par Dieu. C'est aussi une façon où on peut entendre la voix de l'Esprit en disant, tu ne pourras pas arrêter par ta prière l'avion qui va s'écraser. Mais tu peux faire en sorte que ce jour-là, tu ne sois pas à l'endroit où ça se passe. Et ça, c'est aussi une autre façon dont Dieu peut intervenir. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Si des milliers de gens appellent une chose à l'existence, ce n'est pas des fois une simple petite prière qui peut tout stopper. Et je voudrais aussi passer à cette partie où on veut parler un petit peu des limites de notre champ d'action. Il y a une limite dans notre champ d'action, c'est la volonté humaine. Vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes face à une volonté humaine, elle sera respectée. Elle sera respectée par Dieu. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas prier qu'une personne commence à vous aimer, comme ce serait faire la magie, vous savez, comme dans les filtres d'amour, où quelqu'un voudrait que l'autre soit amoureux, alors une sorcière qui lui donne un petit filtre, et puis il mange ou boit, et puis il tombe amoureux. Ça n'existe pas. Et dans le catalogue des promesses de Dieu, vous n'avez pas ça. Vous ne pouvez pas exercer votre influence. Ça ne marche pas dans ce sens et ça ne marche pas dans d'autres sens non plus. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas agir. Votre autorité spirituelle se limitera à la volonté de l'autre personne. Et Dieu va respecter cette volonté. C'est quelque chose qu'il nous a donné, le libre arbitre, le choix. Et c'est sacré. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez agir contre l'activité démoniaque. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette personne, pour vous pousser la personne à vous faire du mal, à ce moment-là, vous ne pouvez pas agir contre la personne, mais contre ce qui est à l'œuvre. Et là, Jésus nous a donné une parole, il a dit, « Tout pouvoir et autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a dit, « Je vous donne autorité sur les démons et sur toute la puissance des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. » C'est dans Luc 10, 17 et suivant. Il faut que vous reconnaissiez votre champ. Qu'est-ce qui vous appartient? Quelle est la part que Dieu vous a donnée? Vous ne pouvez pas toujours prier pour le monde entier. Mais la part que Dieu vous a donnée, votre champ. Et quand vous avez reconnu votre champ, battez-vous pour votre champ, pour ce que Dieu vous a confié. On ne va pas regarder le détail, mais j'aime le héros de la foi, Shammah, il s'appelait. dans 2 Samuel 23:11, quand les Philistins, les ennemis, sont venus, il s'est tenu au milieu du champ de lentilles et il s'est battu pour que l'ennemi n'ait pas ce champ. Et certains pourraient dire alors, oui, mais quand Dieu donne une chose, il la donne pour toujours. Alors, c'est encore une fable religieuse. Parce que Apocalypse 3, verset 11 dit, « Retiens ce que tu as, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. » La couronne, elle est donnée par qui ? Elle est donnée par Dieu. Si on suivait le raisonnement de certains, puisque Dieu l'a donnée, personne ne peut le reprendre. Non, il y a des choses que Dieu nous a données, mais on a besoin de les tenir fermes, sinon on va les perdre de nouveau. C'est la Bible inspirée par Dieu qui dit ça, hein. C'est pas moi qui l'invente. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. Les limites de notre champ d'action, c'est bien plus loin que vous ne pensez. Quand je dis limite, c'est pas pour vous limiter, c'est pour que vous les reconnaissiez. Mais vous pouvez étendre les limites. Par exemple, si vous voulez traverser une étendue d'eau, bon, vous pouvez nager éventuellement, mais les disciples dans la barque, ils étaient en train de traverser, et voilà que Jésus marche sur l'eau. Et vous savez qu'à un moment donné, Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. » Et il a dit, « Viens. » Et Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Après, tout le monde se rappelle qu'il a eu peur, et puis il a commencé à couler, le Seigneur l'a saisi par la main. Mais au moins il a marché pendant un temps. Il a étendu ses limites. Il a été plus loin qu'aucun autre homme à part Jésus n'a été. Il n'y a que deux personnes dans la Bible qui ont marché sur l'eau. Jésus et Pierre. Après il y a eu d'autres qui ont pu faire des miracles. Mais à ce moment-là, moi j'ai dit aussi, étendez votre limite, voyez votre champ d'action. Vous pouvez marcher sur le miraculeux de Dieu. Et sortez de votre barque et rencontrez le Seigneur là où votre appel est. Ensuite, nous avons parlé souvent aujourd'hui des éléments. Il y a une espèce de fascination pour ces éléments. Vous ne trouvez pas que à la fois il y a des choses qui sont effrayantes et en même temps on peut être fasciné par les flots de la mer, toute cette masse d'eau, cette force, ces vagues ou un vent qui souffle très fort ou des choses comme ça. Et il y a une fascination de voir que, si quelqu'un peut contrôler ça doit être de la force, hein. Jésus l'a fait dans Marc 4 verset 37 et suivant. Dans ma Bible il y avait un grand tourbillon. Et dans le mot grec pour dire grand, c'est méga, ça veut dire vraiment c'est géant, c'est méga. Et après que Jésus soit intervenu et dit « Silence, tais-toi », il y a eu un grand calme. La réponse de Jésus était proportionnée par rapport à la puissance déployée et ce grand tourbillon s'est transformé en grand calme. Mais quand il a fait ça en tant que quoi ? Pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme. Il s'est toujours présenté comme fils de l'homme. Et nous devons réaliser ça. Il n'a fait aucun miracle en tant que fils de Dieu. Il les a fait en tant que fils de l'homme, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. À part aller à la croix, mourir pour les péchés du monde, il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à faire à la suite de Jésus. Et même, nous devons faire, mais nous pouvons le faire, c'est ça la bonne nouvelle. Alors vous voulez voir comment les gens de la Bible étaient limités ? Regardez Josué, dans Josué 10, il a dit « Soleil, arrête-toi ! » Lune, arrête-toi. Imaginez, un homme a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter. Bon, ceux qui ne croient pas à la Bible, ils ne le croiront pas. Mais nous le croyons parce que c'est écrit. Et j'ai entendu qu'il y a des scientifiques qui ont, je ne sais pas comment ils ont fait pour mesurer ça, mais il y a une différence dans l'horloge astronomique de un jour. Et la Bible dit qu'il y a un jour, celui de Josué, qui s'est prolongé. Un jour, mais il manque quelques minutes. C'est les minutes où le soleil a reculé, et ça c'était dans Ésaïe, avec l'histoire d'Ézéchias, il a reculé de 10 degrés. Alors un jour le soleil s'est arrêté pendant presque un jour complet, jusqu'à ce que Josué ait remporté la victoire sur ses ennemis. Et la Bible nous dit, il n'y a jamais eu un jour comme celui-ci. Ça vaut la peine qu'on lise le verset, parce que que nous voyons quelle est l'étendue de la puissance de Dieu et comment nous n'avons pas à subir, mais que nous pouvons agir en son nom. Josué 10, verset 12. Josué parla à l'Éternel. D'abord, il en a discuté avec Dieu. Il dit, il me faudrait une prolongation pour que la bataille puisse se terminer et que les ennemis puissent pas s'enfuir et que j'en finisse avec eux une bonne fois pour toutes. Mais pour ça, j'ai besoin que la journée dure plus longtemps. Alors, ils ont dû en parler avec Dieu. Et il n'est pas dit que l'Éternel a dit, je vais m'occuper de tout. Dieu a dit, vas-y, va avec ce que tu as reçu de moi. Et Josué dit en présence d'Israël. Il n'a pas dit, je vais le faire en secret parce que si jamais ça ne marche pas, j'aurai l'air ridicule. Donc, il l'a dit en présence d'Israël. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Là, ça devait être quelque chose, parce que nous, on est impressionnés par certains phénomènes, quand il y a une éclipse ou des choses comme ça, mais là, le soleil s'arrêta au milieu du ciel et il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel écoutait la voix d'un homme. Vous parlez de limitation, vous trouvez que c'est limité ça ? Alors bon, on n'est peut-être pas tous appelés à faire ce que Josué a fait, mais ça nous donne quand même un encouragement pour dire peut-être on est en dessous du standard de Dieu et qu'il y a encore beaucoup plus pour étendre nos limites. Donc c'est quand même, ça nous amène aussi à, on a beaucoup parlé des circonstances, en particulier des événements, par rapport à la météo. Faut-il prier pour le beau temps ? Des fois, les enfants, on prépare un pique-nique et puis des enfants voudraient prier pour qu'il fasse beau ce jour-là. J'ai dit, il faut faire attention à ce que nous faisons. Si on veut juste les faire prier sur une base de sentimentalisme, parce que ça serait sympathique et qu'on ait le pique-nique, et que Dieu ne répond pas à leurs prières, ils seront déçus et confus. Ils disent, mais j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Il vaut mieux d'une façon intelligente, des fois chercher, parce que si je prévois un pique-nique en décembre, ici il y a peu de chances qu'on ait du beau temps de pouvoir s'asseoir dans l'herbe. Donc il faut aussi un peu réfléchir des fois à certaines choses, mais il est vrai que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans certains domaines. Mais moi je voudrais aussi leur apprendre à prendre les bonnes décisions conduites par l'Esprit, et pas juste sur un coup de « Oh, j'ai envie qu'il fasse beau !» Donc, attention à les prières par rapport à la météo, hein, pour ne pas finir confus et déçu. Ça sera tout simplement parce qu'on n'a pas compris quelque chose que Dieu veut faire. Et une fois, rappelons-nous encore quelles sont les limites de notre champ d'action. Quelle est la limite que Jésus lui-même a indiquée ? C'est dans Marc 9, 29. « Il te sera fait selon ta foi. » Ça, c'est la limite. Et pour terminer, je voudrais juste encore parcourir certaines choses où vous pouvez vraiment être encouragé dans la foi. Vous n'avez pas besoin de subir. Réalisez cela. Vous n'avez pas besoin de subir, ni de devenir une victime, ni d'échouer dans certains domaines. Dieu n'a pas prévu ça. Cherchez vos promesses pour la maladie et la bonne santé. Les chercheurs et les scientifiques ne comprennent pas pourquoi le mécanisme de la vieillesse se met en route. Pourquoi, à un moment donné, l'être humain vieillit ? Parce qu'au départ, ils voient au contraire que dans notre corps, il y a des cellules qui se renouvellent. En l'espace de 10 ans, vous n'avez plus aucune de vos cellules qui sont les mêmes. En 10 ans, tout a été renouvelé par cycle, tout est renouvelé. Et donc, il y a des choses qui se passent où on ne comprend pas la vieillesse, la maladie, etc. Mais nous avons des promesses de Dieu qui peuvent aller contre ces choses. Je ne dis pas que vous allez tout à coup tous rajeunir, mais la Bible parle que nous pouvons rajeunir comme l'aigle. Il y a des choses à préparer et à réaliser où vous voyez que la loi du péché et de la mort agit sur l'être humain. Mais il y a une loi spirituelle plus haute, plus élevée. C'est dans Romains 8, il est dit, c'est la loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus. Là encore, Nous récoltons aujourd'hui ce que nous avons semé pendant toute notre vie. Donc on ne peut pas toujours tout défaire comme ça d'un claquement de doigts ou une petite prière qui fait que tout à coup on ressemble de nouveau à ce qu'on était quand on avait 15 ou 20 ans. Ce n'est pas la réalité ça. Mais ça nous montre que nous n'avons pas besoin de vieillir avec Alzheimer, dans un fauteuil roulant, arthrose, gaga, ne sachant plus qui on est, et ces choses-là. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous pouvons nous attendre à ce que certaines choses se passent à cause de la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Nous avons des promesses concernant la libération que donne l'Esprit de Dieu. Romains 8, juste avant Romains 8, il y a Romains 7, bien sûr, ça c'est pas un secret. Et juste à la fin de Romains 7, il nous dit, l'apôtre Paul écrit, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Je vois la mort qui agit en moi, il y a plein de choses. Et tout de suite après, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu. » Et donc il réalise que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a d'autres choses où vous n'avez pas besoin de subir, devenir une victime, etc. Certains ne comprennent pas bien non plus l'histoire de tendre la joue. Quand Jésus a dit, si quelqu'un te donne une claque, alors donne-lui l'autre joue pour qu'il te donne encore une autre. Il faut replacer les choses dans le contexte. Quand vous êtes en situation où vous êtes occupé, et nous connaissons, en France on a connu aussi l'occupation des nazis, le fait de résister à quelqu'un qui vous a envahi ne fait que accentuer éventuellement la violence et la répression. Donc il faut, par sagesse, des fois savoir baisser la tête, faire profil bas, comme on dit, et on vous a donné une claque, bon, mais tu vas pas en mourir. C'est ça que ça veut dire. Alors ne cherche pas à te révolter et à aiguiser la violence de celui qui est en face de toi. C'est ça que ça voulait dire. Ça ne veut pas dire, tu prends une claque, allez, vas-y, nous en avons encore une autre, etc. Ce n'est pas ça. Dans ce sens, il y a un pacifisme qui est complètement décalé de la réalité. Parce qu'il y a aussi des situations où il faut savoir se battre, il faut savoir résister. Si vous voyez quelqu'un qui est agressé dans la rue, vous pouvez dire, non, moi je suis pacifiste, je ne fais rien. En France, c'est puni, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Et donc, il y a des situations où il faut savoir réagir. Mais il y a des situations où la Bible nous donne des solutions de sauvegarde en disant, ne cherche pas une querelle où ça va mal se terminer pour toi. Ne cherche pas à être violent. Anthony, qui a donné son témoignage, justement, en tant qu'ancien champion du monde de Kung Fu, et quand il était en prison, quelqu'un l'a agressé et cherchait à le tuer. Et lui, il savait qu'avec tout ce qu'il avait appris des techniques de combat, il pourrait facilement le tuer de ses mains. De ses mains nues, en quelques secondes, il aurait pu le tuer. Mais il avait déjà entendu quelque chose du message de l'Évangile. Il a senti qu'il y avait une force qui agissait en lui pour lui dire « ne le fais pas, ne cède pas à la violence ». Et chose curieuse, l'autre ne comprenait pas, mais il lui a dit quelque chose dans sa langue maternelle que l'autre ne comprenait pas. Et il est parti comme frappé de terreur. La bagarre s'est immédiatement arrêtée parce qu'il s'est mis sur un terrain spirituel où il a compté sur l'aide de Dieu. Parce que dans le naturel, il aurait pu s'en sortir, mais il ne voulait pas prendre cette voie. Et moi, ça m'a fait penser à ça quand la Bible dit dans Jacques 4:7, « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et quelqu'un a dit de « se fuira loin de vous ». Il fuira loin de vous comme frappé de terreur. Vous pouvez imaginer ça? La plupart des gens, sauf ceux qui croient qu'ils sont du côté du diable et qu'il les aide, la plupart des gens se méfient quand même un peu de ce personnage et en général n'aiment pas trop avoir affaire à lui. Mais de l'imaginer qu'il puisse fuir loin de vous comme frappé de terreur. Est-ce que vous avez déjà eu cette image de voir qu'il part terrorisé? Il partira terrorisé loin de vous chaque fois que vous aurez exercé l'autorité spirituelle et qu'il se dira « Quoi ? Cette pauvre et faible créature, elle peut me vaincre en utilisant le nom de Jésus alors que moi je suis un être spirituel qui normalement pourrait l'emporter sur elle. » C'est parce que tout à coup, il réalise que vous utilisez les armes de Dieu et qu'il peut être vaincu à chaque fois. Et ça, c'est une réalité. On a l'impression que c'est trop beau pour être vrai, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer autrement. J'ai parlé de certaines circonstances, des actes. Il y a des accidents aussi qui pourraient être évités. Il y a des promesses dans la vie pour nous garder. Et des fois, on ne prend pas garde. On ne fait pas attention et on se lance dans toutes sortes de situations. Mais découvrez vos promesses. Les anges sont aussi une réalité. Moi, je ne veux pas seulement parler du diable et des démons, parce qu'ils existent aussi. Ils te tiendront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Les anges pour la protection, vous pouvez regarder dans 2 Rois 6, 16, le siège de Samarie. Le prophète et son serviteur qui risquent d'être attrapés et tués. Mais le prophète voyait qu'il y avait des anges qui étaient envoyés par Dieu. On a entendu beaucoup des histoires de missionnaires des fois. Ils étaient dans leur hutte ou dans leur case ou je ne sais où. Des gens très mal intentionnés commençaient à serrer leur habitation de près. Eux, ils dormaient tranquillement. Puis après, ils entendaient, mais on n'a rien pu faire. Il y avait des gens qui montaient la garde et des choses comme ça. Alors, c'est une réalité spirituelle aussi. Dieu voudrait nous donner sa faveur. Il y a la faveur de Dieu, mais il y a aussi des temps de préparation. Le psaume 1 dit... Heureux l'homme, tout le monde veut être heureux, hein, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pas qu'il marmonne parce qu'il faut lire sa Bible, mais il se réjouit, il se dit, chouette, c'est vraiment intéressant ce livre, j'ai trouvé des tas de choses que je peux faire et que je peux expérimenter. Alors qu'est-ce qu'il est ? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit point. Encore un des versets anti-vieillissement. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais au verset 3, on a vu « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Ça, ça semble aussi quelque chose qui est vraiment inaccessible. Mais pourtant, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Et quand il dit aussi dans 3 Jean 2, il veut nous faire prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Regardez votre vie, regardez en arrière. Imaginez-vous quand vous étiez peut-être enfant ou plus petit, quels étaient vos rêves ? Est-ce que vous auriez rêvé que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous auriez eu d'autres rêves ? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas atteintes ? Il n'est pas encore trop tard, il y a des choses que vous pouvez atteindre encore. Peut-être que vous ne pouvez plus devenir champion du monde de foot ou de tennis, des choses comme ça. Mais il y a des choses que vous n'avez pas atteintes, que vous pouvez atteindre. Et même il y a des choses que vous n'avez jamais imaginées, que vous pouvez atteindre maintenant et qui dépasseront, comme dit la Bible, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et vous aurez fini votre vie, rassasié de jours, satisfait. Vous direz, gloire à Dieu, tout ce qui a été réalisé au travers de moi. Et en plus, le voyage était agréable. Pas pénible, pas subir, mais le voyage était agréable. Continuez de rêver, retrouvez vos rêves, ne les laissez pas s'échapper. Et parlez du problème, parlez de la montagne. Beaucoup de gens pensent que ça c'est réaliste, on se croit intelligent, on analyse la situation et on se dit, il faut vraiment tout examiner. Ça paraît bien, mais ça ne change rien. Ce qu'il nous faut, c'est des choses qui changent. Moi, je suis toujours, quand il y a quelque chose qui est de travers au boulot, ça ne m'intéresse pas d'étudier pendant des heures qui a fait quoi, qui a fait de travers, qui a fait faux. On dira oui, c'est pour pas refaire les mêmes choses. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une solution, c'est de pouvoir trouver une solution, de continuer et de pas s'arrêter. Ne nous arrêtons pas. Parlez la foi. Et on termine dans Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des choses qui viennent vers vous. Il y a des choses qui concourent à votre bien. C'est une promesse de Dieu. Moi, je veux aussi que les choses qui vous arrivent, ce soient des choses qui concourent à votre bien. Je ne dis pas n'importe quoi. N'acceptez pas n'importe quoi. Ne dites pas, c'est mystérieux, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais Dieu a quelque chose de prévu. Non, il y a des choses que vous devez vous en débarrasser, de vous éviter. Mais croyez aussi qu'il y a un dessein de Dieu. Il y a des choses qui vont vers vous pour concourir à votre bien. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.